France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's on in the house.
Halim, Radio Rosana Piparis.
Produce get in the radio.
So pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pès.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans le monde pro-Marine Le Pen ce soir.
The threat that I worry the most about.
La menace qui me semble la plus inquiétante pour l'Europe vient de l'intérieur. L'Europe s'éloigne de certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs que partagent les États-Unis d'Amérique. Vous avez reconnu peut-être J.D. Vance, c'était à Munich le 14 février dernier, qui fustige dans ce discours principalement la liberté d'expression, mais qui fustige surtout nos démocraties, le mode de fonctionnement de nos démocraties. Et c'est bien en partie les États-Unis que nous avons en tête, l'Europe aussi, on y viendra. Bonsoir Thomas Legrand.
Bonsoir.
Enquête de politique sur France Inter, Thomas, bien sûr, éditorialiste aussi à Libé. Nous irons à Moscou et nous irons en Italie également. On a entendu Thomas J.D. Vance en ouvrant cette conversation parce que c'est un peu lui qu'on a en tête, sa vision de la démocratie, la vision de l'état de droit désormais aux États-Unis. Et c'est bien cette conversation qu'on a aujourd'hui s'agissant de la condamnation de Marine Le Pen. Et je me demandais si cette conversation-là, il fallait la voir. Si on nous pousse à la voir, s'il fallait se garder de la voir, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
Oui, c'est une conversation sur la nature de la démocratie. C'est une conversation mondiale en ce moment. Il y a deux formes de démocratie. Enfin, il y a une démocratie, mais elle peut se décliner en deux versions. La démocratie directe, ou en tout cas la démocratie plébiscitaire, ou la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie libérale. Nous, en Europe, on est féru de démocratie libérale. Ce qu'on appelle démocratie libérale, il ne faut pas confondre, libéral, ce n'est pas l'économie, c'est Montesquieu, Tocqueville, c'est la liberté, et c'est la liberté, mais c'est surtout la limitation du pouvoir de ceux qui ont le pouvoir. D'ailleurs, c'est la définition de l'état de droit. L'état de droit, c'est un mot qu'on utilise, un terme qu'on utilise beaucoup en ce moment et qui est un petit peu flou, mais l'état de droit, c'est cet ensemble de législation, de normes qui limitent le pouvoir de ceux qui ont le pouvoir. Et puis qui fait que la démocratie, c'est pas simplement les élections, c'est aussi les corps intermédiaires, c'est aussi les syndicats, les partis, c'est la séparation des pouvoirs, des trois pouvoirs, législatif, judiciaire et exécutif, qui ne sont pas hiérarchisés, qui se contrôlent les uns les autres selon des définitions très précises, des rôles et des objectifs très précis. Mais et ça, il n'y a plus que l'Europe Qui le défend, cet état de droit-là.
Il n'y a plus que l'Europe. Peut-être l'Europe a un fil, même chez nous. On entend que l'état de droit n'est plus l'alpha et l'oméga, etc. Est-ce qu'on est à un moment où il faut redonner de la définition, en fait, y compris de la définition de la primauté du droit ? Est-ce que ça veut dire ?
Oui.
Il faut redéfendre le droit, il faut
expliquer que le droit est fait, la norme est fabriquée selon des règles établies non seulement par les constitutions, mais par des comportements qui ont été qui ont été modernisés après la Seconde Guerre mondiale et d'ailleurs qui ont été réfléchis aussi d'ailleurs, c'est intéressant, par la charte de la, pas le pacte de l'Atlantique, mais la charte de l'Atlantique entre Roosevelt et le Britannique
Churchill,
voilà, qui se sont réunis pendant la guerre en disant on va gagner cette guerre contre un dictateur, contre une oppression, et on va faire une démocratie, on va proposer à l'Europe et à l'Occident une démocratie complexe, une démocratie complète.
Et Thomas Legrand, vous l'entendez monter la petite musique, j'ai voté, je suis empêché dans ma volonté, ce discours-là, on commence à l'entendre partout, on l'entend chez nous, on l'entend ailleurs. Aujourd'hui, Geert Wilders aux Pays-Bas, Matteo Salvini en Italie, on ira dans un instant, Viktor Orban en Hongrie, le Kremlin, même très vite et très directement, nous irons aussi. On n'est pas étonné de qui soutient Marine Le Pen.
Alors,
après sa condamnation.
C'est des libéraux, c'est des gens qui limitent les libertés dans leur pays, mais c'est des gens qui ont accédé au pouvoir, quand c'est pas de façon autoritaire comme Poutine, qui est resté en truquant les élections, mais les autres ont accédé au pouvoir par les élections, et avec ce discours selon lequel les démocraties sont maintenant impuissantes.
Et est-ce qu'il se passe là du pain béni pour ces discours-là quand même ? C'est pour ça qu'ils se sont jetés sur une déclaration immédiatement.
Une partie de la population, dans un monde dérégulé, dans un monde ouvert comme le nôtre, a l'impression que nos élus, ceux pour qui on vote, n'ont plus les manettes, n'ont plus prise sur les choses. Or, le peuple est souverain. Si le peuple souverain élit des hommes politiques qui ne peuvent plus, qui sont empêchés, la démocratie est grippée. Et donc, il faut, selon eux, il faut désencalaminer. Mais désencalaminer, ça passe pas par, enfin, selon moi, ça ne passe pas par casser tous les rouages de la démocratie
libérale.
Et en
même temps, vous le voyez, le fil rouge, hein, quand on les voit arriver, ces dirigeants-là, les uns après les autres, c'est par là que le PiS avait commencé à l'époque en Pologne, oui. Qui aujourd'hui n'est plus au pouvoir, mais c'est par là qu'ils avaient commencé, c'est comme ça qu'a commencé avec Orban, avec les tribunaux administratifs. Giorgia Meloni est en guerre contre ses juges aujourd'hui. En Slovaquie, même chose, enfin, dans tous ces régimes, c'est le droit qui en prend un coup, c'est le droit qui prend le premier même. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est perméable à ça, nous en France, ou tout aussi imperméable que ces démocraties dont on parle ?
J'ai le sentiment qu'on est perméable à ça quand j'entends le Premier ministre dire qu'il est gêné,
troublé.
Voilà, quand j'entends le peu de réactions politiques qui... non, il ne s'agit pas de soutenir une décision de justice, mais la comprendre. C'est-à-dire que les juges là, ils n'ont pas fait ils ont fait un jugement juridique et non pas politique. Alors évidemment, il y a de la politique. Ils ont arbitré entre deux exigences démocratiques et constitutionnelles. La première exigence, c'est la probité dont doivent faire preuve nos élus. Il se trouve que cette exigence, elle a été rappelée avec une force inouïe en 2016 quand la loi Sapin 2 a été votée à l'unanimité. Mmh. Je vous rappelle que Marine Le Pen, à l'époque, qui n'était pas députée, n'a pas voté, mais avait des discours très allants. Il fallait même proposer une inéligibilité définitive,
oui,
etc.
Vie, ouais.
Bon, et entre ça et, d'un autre côté, laisser le choix aux électeurs. Or, le juge, là, laisse le choix aux électeurs. C'est-à-dire qu'il y aura un candidat RN, il y aura un candidat... Ce mouvement, qui est un mouvement important, il sera représenté, mais il ne peut pas être représenté, disent les juges, par quelqu'un qui a triché, et triché de façon qui était au centre de toute une organisation de tricherie.
Alors,
ça paraît être le béaba pour quelqu'un qui est attaché à la justice, normalement.
Je voudrais qu'on poursuive notre petit tour du monde. On en a cité certains. Le plus impressionnant, probablement, c'est la Russie, parce qu'elle a vraiment réagi au quart de tour, et notamment à la télévision.
Démocratie по-французски. Суд в Париже признал Марин Ле Пен и еще 8 ее сторонников виновными по делу.
Vous l'avez entendu de loin, il y a la phrase de la voix off de cette journaliste, et on reviendra là-dessus, Thomas, qui dit la démonstration de l'effondrement démocratique en Europe est là. On reviendra sur cette phrase. Je voudrais saluer Sylvain Tronchet. Bonsoir, Sylvain Tronchet.
Bonsoir Fabien.
Vous êtes à Moscou, Sylvain. Ce qui est impressionnant chez vous, c'est le Kremlin qui répond très vite et même très très vite.
Oui, le jugement est... Il faut dire aussi que le jugement concernant Marine Le Pen est tombé en fait au moment pile où le porte-parole du Kremlin tenait sa conférence de presse quotidienne. Donc c'est tombé vite, mais surtout, je serais tenté de dire, c'est tombé de rue. Un instant, on a cru que Dimitri Peskov n'allait pas commenter l'information, disant « nous ne voulons pas nous ingérer dans les affaires intérieures de la France, nous ne l'avons jamais fait ». Et puis il a ajouté immédiatement « la situation de Marine Le Pen constitue une violation des normes démocratiques ». Voilà. Et puis quelques instants plus tard, c'était la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui parlait, elle, carrément d'agonie de la démocratie libérale. Tout cela a beaucoup d'écho avec ce dont parlait Thomas à l'instant. La première chaîne de télévision, vous l'avez entendu, qui commente avec ironie la démocratie à la française. Et puis dans la presse, depuis maintenant plusieurs heures, les experts politiques qui prédisent un chaos à venir dans la démocratie française, certains hommes politiques même qui dénoncent l'instrumentalisation de la justice pour éliminer des opposants. Sergueï Mironov, le leader du parti Russie Juste, qui est un allié de Vladimir Poutine, va même jusqu'à affirmer que la seule joie des partisans de Madame Le Pen, c'est qu'elle n'ait pas été éliminée physiquement, parce que, affirme-t-il, il y a une augmentation des tentatives d'assassinat visant des hommes politiques. Bref, le ton est unanime à Moscou, personne ne parle du fond.
Ouais.
L'innocence de Marine Le Pen est un fait acquis.
On
ici.
A entendu la nuance, j'y mets des guillemets, Sylvain Tronchet. C'est quand même aussi une manière d'avancer ses pions en Europe, non, pour le Kremlin, sur un terrain, là, pour le coup, très familier.
Ah bah oui, parce que les liens effectivement entre le pouvoir russe et l'extrême droite européenne sont plus à démontrer. Hein. Aujourd'hui, ils existent, ils sont là. C'est une banque russe, hein, par exemple, qui est venue au secours du Rassemblement national au moment où il était menacé de banqueroute. Alors, il y a une part d'opportunité, certainement, la stratégie du cheval de Troie, qui consiste à soutenir des mouvements qui peuvent perturber le fonctionnement des démocraties occidentales. Il y a eu de l'ingérence dans plusieurs élections, mais il y a aussi, et on l'a longtemps sous-estimé, une vraie convergence idéologique, entre nationaux populistes, même si leurs intérêts par nature peuvent être divergents parfois, mais puisque chacun défend son précaré, mais ils peuvent se retrouver finalement autour du thème des valeurs traditionnelles, hein, dans leur lutte contre ce que tout le monde ici appelle le wokisme, pour faire simple. Et puis, ce qu'il faut bien voir également côté russe, c'est que ça couvre tout le spectre de l'extrême droite. Hein. On avait par exemple, lors de la dernière présidentielle russe, un observateur français invité par le Kremlin qui s'appelle Ivan Benedetti, qui est une figure de l'ultra-droite antisémite française. Et puis on le retrouve clairement dans la communauté française à Moscou aujourd'hui. Hein. Ceux qui sont restés après le départ de nombreux expatriés au moment de la guerre, aux dernières européennes. Au bureau de vote de Moscou, c'était 1 Jordan Bardella, 2 François Asselineau, 3 Marion Maréchal, 4 Florian Philippot. Les deux tiers des voix pour l'extrême droite ici.
Merci beaucoup. Merci Sylvain Tronchet. La démonstration de l'effondrement démocratique en Europe, Thomas Legrand. Alors, sachant que ce message, il est adressé à nous, Européens, il est aussi adressé évidemment à l'intérieur de la population russe. Soyons pas dupes de ça. Les mots disent quelque chose.
Disent quelque chose. On sait que la façon dont les Russes, les médias russes et le pouvoir russe décrit l'Europe, c'est toujours catastrophique. Il faut rappeler, Sylvain aurait pu le rappeler, mais que en Russie, pour se présenter aux élections, il faut une autorisation du Kremlin. Du Kremlin et de Poutine. Et il choisit ses opposants parmi ses amis. Donc, c'est même
on
pas la
même
peine de
rappeler
ça.
On a même eu des comparaisons en Europe en disant qu'on était comme en Turquie au moment de l'enfermement de mer.
Les Russes mentent en permanence. Et promeuvent tous ceux qui mentent ici, donc c'est logique.
Est-ce que je vous lis la réaction d'Elon Musk, qui parle début du système judiciaire et qui dit ceci: lorsque la gauche radicale ne peut pas gagner par le biais d'un vote démocratique, elle abuse du système judiciaire pour emprisonner, là, pour le coup, dit-il, ses opposants, c'est son mode opératoire à travers le monde. L'excès, on le connaît, mais le fioul aux électeurs RN, ça marche, non?
Le fioul aux électeurs RN, c'est la victimisation. Alors là, c'est le pompiste a lâché du lest et toutes les cuves sont remplies. Donc ça, effectivement, c'est d'ailleurs un argument pour tous ceux qui disent que cette décision était une décision politique pour nuire au Rassemblement National. Moi, je ne suis pas du tout sûr, on peut faire des analyses tout à fait contradictoires, je ne suis pas du tout sûr que cette décision nuise au Front National. Je trouve que c'est une décision qui a une logique juridique tout à fait cohérente, mais elle n'est pas basée sur le fait que ça puisse nuire ou pas nuire au Front National, au Rassemblement National.
Allons en Italie pour poursuivre cette conversation, rejoindre Bruno Duvic. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Et si on va en Italie, Bruno, c'est parce que la réaction de Matteo Salvini, donc vice-président du Conseil, Mélanie, à ma connaissance, n'a rien dit, mais vous avez le droit de me contredire.
Non, pas pour l'instant.
Eh ben voilà, merci beaucoup.
Mais un petit proche, oui, tiens, au passage.
Eh ben voilà, ce qu'il dit en tout cas, lui, Salvini, c'est déclaration de guerre de Bruxelles. Et c'est quand même intéressant que ce soit Bruxelles le responsable aux yeux de Salvini.
Et la question posée à l'équipe Salvini sur le lien entre le jugement à Paris et Bruxelles, eh bien la réponse de l'équipe Salvini, c'est l'enquête concerne le Parlement européen, rien de plus. Alors en fait, il faut intégrer ce commentaire dans un positionnement de politique intérieure et internationale. C'est exactement la conversation mondiale dont parlait Thomas Legrand. Salvini, plus encore que Giorgia Meloni, et pour se distinguer d'elle, est un membre actif de cette internationale de leaders qui dénonce fréquemment le gouvernement des juges, club dans lequel on trouve Viktor Orban ou Geert Wilders, qui ont aussi commenté la condamnation. Et la place dans le club passe par une critique, quel que soit le sujet, de Bruxelles. Et en ce moment, du plan de défense à 800 millions. Le communiqué de Matteo Salvini sur la condamnation de Marine Le Pen fait le parallèle entre le jugement et les pulsions belliqueuses de Macron et von der Leyen. C'est un appel à la paix à la mode Trump. Vous diffusiez G.D. Evans au début de l'émission. Bref, c'est un joyeux mélange de tous les sujets. Dernier point sur la conversation mondiale, je vous parlait du proche de Giorgia Meloni qui lui aussi condamne ce jugement, Tommaso Foti, il s'appelle, hurler au complot des juges quand un élu est condamné, en Italie, c'est d'une banalité absolue, ça existe depuis 30 ans et les années Berlusconi.
Merci beaucoup Bruno Duvic, ça existe effectivement depuis un moment. Qui craint le jugement des électeurs se rassure par le jugement des tribunaux, c'est une phrase qui est signée Matteo Salvini, Thomas Legrand.
Oui,
dans le même communiqué.
Oui, la grande mode, mais c'est la mode aussi en France, ce que dit Bruno Duvic existe aussi en France sur la critique
Oui, mais grande mode,
juges.
Pardon, je vous interromps, mais grande mode ou pas en fait? Parce qu'il y a eu un moment quand même où les juges, les magistrats étaient intouchables. On ne touchait pas au droit. Qu'est-ce qui a fait ce basculement qui fait que désormais les juges sont dans l'élite en quelque sorte pour tous ces pays-là et pour les États-Unis aussi et qu'on peut y aller à bras raccourcis aussi sur les juges?
Je pense que c'est le procès, l'angoisse de l'impuissance des exécutifs. Les exécutifs sont impuissants parce que les frontières sont ouvertes et c'est normal, parce que le média international est organisé en réseau et que c'est très compliqué d'avoir prise sur les choses parce qu'on est totalement interconnectés. Et donc, ceux qui ont les manettes du pouvoir, au lieu d'assumer ça et dire on va s'organiser au niveau international, au niveau supranational, comme essaye de le faire l'Europe d'ailleurs, pointent des freins intérieurs, et des encalaminations intérieures qui sont largement fantasmatiques, fantasmées, et s'en prennent aux juges, aux journalistes aussi, à tous ceux qui les empêchent, quoi. Et donc, ils se disent, voilà, moi je viens d'être élu pour faire quelque chose, et on me dit que c'est pas possible, ouais, parce que c'est pas légal, et si c'est pas légal, c'est les juges. Alors que c'est eux qui parce que ça, cette loi a été votée,
bien sûr,
à l'unanimité, et avec des surenchères autoritaires, d'ailleurs.
Merci beaucoup, Thomas Legrand. Merci vraiment votre éclairage. La suite de cette conversation, ce sera au téléphone sonne. On se demandera effectivement si c'est un caillou dans la chaussure ou des chaussures ailées pour le Rassemblement National que cette affaire. La suite, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Je vous la donne, si vous voulez. Ça se passe en Autriche, qui veut renvoyer ses réfugiés syriens. J'y suis. Et pour aller jusqu'à 19h, Christelle Robière, Sous les radars.
On s'intéressera à James Bond, une saga profondément sexiste. C'est pas moi qui le dis. Hein.
Le Monde à 18h50. Claude Guibal, bonsoir Claude.
Bonsoir. Plus de 2000 morts en Birmanie dans ce séisme. Un tremblement de terre qui pourrait être un test crucial pour l'avenir de la junte au pouvoir.
Et la BO du Monde, Cyril Sauvageau. Salut Cyril.
Bonsoir. Ce soir aux Antilles, aux origines du Zouk, avec une compilation puisée dans les archives du label historique de Pointe-à-Pitre.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète commence à peine. Il passe par la Floride et ses Everglades avec Doechii, meilleur album rap de l'année au Grammy, Anxiety, en playlist sur Inter. Allez, le reportage d'Un jour dans le monde est en Autriche ce soir. L'Autriche qui avait, dès le lendemain de la chute de Bachar al-Assad, annoncé un programme de rapatriement et d'expulsion vers la Syrie de ses réfugiés. Environ 3000 réfugiés vivant en Autriche, ils sont 100 000 en tout, ont ces derniers mois reçu un courrier les informant de l'ouverture d'une procédure pour le possible retrait de leur statut. L'Autriche a aussi suspendu le regroupement familial. Des mesures évidemment qui créent beaucoup d'inquiétudes, et le reste c'est Isorias qui raconte.
Installé en Autriche depuis 9 ans, Ahmad réfugiés syriens est très investi dans la vie locale. Il dirige une association qui vise à favoriser l'intégration des Syriens en Autriche. Mais ces derniers mois, il entend surtout des récits de désespoir, car le regroupement familial a été suspendu pour ces réfugiés. Et déjà 3000 d'entre eux ont reçu un courrier les informant qu'une procédure pour un possible retrait de leur statut avait été lancée. Abdelkarim, avec qui Ahmad est venu à notre rendez-vous, est dans ce cas. Arrivé en 2021, il vit aujourd'hui seul en Autriche. Ému, Abdelkarim explique qu'il avait d'abord reçu l'approbation pour que ses 3 enfants actuellement en Syrie puissent le rejoindre ici en Autriche. Il avait même acheté les billets, mais qu'il a ensuite reçu une lettre dans laquelle on lui annonçait que ce regroupement familial n'était plus possible. Dans ce même courrier, Abdelkarim apprenait qu'une procédure de retrait de son statut de réfugié avait été ouverte. Aujourd'hui, il est, dit-il, dans une situation de grande incertitude. Il se demande où il irait en Syrie, car sa maison a été détruite par un bombardement et le pays n'est pas encore sûr. Et désormais, ce n'est pas sûr non plus pour lui en Autriche. Il y a de nouvelles mesures tous les jours contre les réfugiés, dit-il. C'est pourquoi son avenir est incertain, comme une illusion. Il ne sait ni où aller, ni ce qu'il va faire. Ahmad, à côté de lui, acquiesce. Des témoignages comme celui-ci, il en entend beaucoup en ce moment au sein de la communauté syrienne.
Ces derniers temps, les gens n'ont plus l'envie. Très peu viennent pratiquer l'allemand lors de nos cours de langue dans les cafés. Nous essayons de les motiver, mais ils disent que leur avenir n'est pas clair. Beaucoup nous racontent que leurs employeurs ont besoin de leur nouveau titre de séjour, mais ils ne l'ont pas. Certains disent qu'à présent, ils sont comme dans une grande prison, car ils ne peuvent pas partir d'Autriche. Et personne ne sait combien de temps tout cela va durer.
Ces procédures ont peu de chances d'aboutir aujourd'hui. C'est avant tout un message politique, selon Lukas Galeitner-Gertz de l'ONG spécialisée Asyl Coordination.
Les derniers développements en Syrie montrent clairement que la situation reste très volatile et qu'elle ne s'est pas consolidée de manière durable et permanente. Or, c'est la condition pour qu'un statut de protection puisse être effectivement retiré. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas de décision de retrait aujourd'hui. Déjà en 2021, lors du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, l'Autriche avait été le premier pays à dire qu'il maintenait les expulsions vers l'Afghanistan. Mais depuis, il n'y a pas eu une seule expulsion vers ce pays. Cela montre que le but n'est pas d'annoncer des solutions réellement réalisables, mais d'envoyer un signal qui dit « Nous ne voulons pas de vous ici, nous voulons que vous partiez ».
Et le gouvernement autrichien, Alliance des conservateurs, sociodémocrates et libéraux, compte maintenir cette ligne dure. La coalition vient d'annoncer son intention d'étendre la suspension du regroupement familial aux autres réfugiés. Un décret en ce sens devrait être bientôt publié.
Isorias pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Christelle Rebière.
Bonjour, j'espère que vous allez bien.
C'est nos voisins belges que nous sommes.
Absolument, en mode grève générale. Avions cloués au sol, écoles, hôpitaux, administrations, collecte des déchets, transports urbains sont impactés. Les deux principaux syndicats du pays, le chrétien CSC et le socialiste FGTB, dénoncent le projet de réforme des allocations chômage et celui des retraites du nouveau Premier ministre, le conservateur flamand Bart De Wever. Et au moment où la France serait tentée de revenir à 62 ans, les Belges eux risquent tous de partir à 66 ans. L'âge de départ des fonctionnaires serait aligné sur celui du privé. Le projet prévoit aussi de supprimer les régimes spéciaux de retraite. Le gouvernement fait valoir que dans le cas contraire, ça coûterait 14 milliards d'euros. Les syndicats dénoncent une régression sociale. Pas de grand cortège national, mais des piquets de grève un peu partout à l'entrée des administrations et des entreprises. Dans les aéroports, tous les vols commerciaux ont été annulés au départ de Bruxelles-Zaventem et de Charleroi. Peu de métros, de trams, de bus. Même le trafic fluvial est interrompu, c'est dire, entre la mer du Nord et le port de Gand. La Belgique, comme la France, est dans le viseur de l'Union européenne pour déficit excessif.
Une manifestation d'un autre genre en République dominicaine.
Organisée cette fois par un groupe nationaliste baptisé Ordre Ancien, des centaines de personnes sont venues dénoncer l'immigration illégale haïtienne. La République dominicaine et Haïti se partagent l'île d'Hispaniola qui avait été découverte par Christophe Colomb. La pauvreté, la crise économique et la guerre des gangs poussent de nombreux Haïtiens à tenter de traverser la frontière en quête d'une vie meilleure. 500 000 personnes vivent ainsi en République dominicaine, un pays de 10,5 millions d'habitants. Le président Abinader, qui fait de la lutte contre l'immigration illégale l'une de ses priorités, a lancé la construction d'un mur de séparation en 2021, le long de la frontière de 340 km, insuffisant, considèrent les nationalistes d'ordre ancien qui veulent réaffirmer l'identité dominicaine. L'an dernier, le gouvernement a expulsé, selon les chiffres officiels, 276 000 Haïtiens.
C'est la musique de quoi, ça ?
De quoi donc ?
Nous sommes au pays de James Bond, en Angleterre. Donc.
007 n'est plus au service de Sa Majesté, mais à celui d'Amazon. Le groupe de Jeff Bezos et sa filiale MGM Studio a racheté la franchise pour la modique somme d'$1 milliard, quand même. Les ayants droit lui ont cédé le contrôle créatif du personnage, alors peut-être verra-t-on un jour des parcs d'attractions 007, des jeux vidéo et toutes sortes de produits dérivés, tout est ouvert. Et si le célèbre espion était campé par une femme, c'est une question. La célèbre actrice britannique Helen Mirren s'insurge dans une interview très remarquée au journal London Standard. Non, James Bond ne peut pas être une femme car toute la série est imprégnée d'un sexisme profond. Je n'ai jamais aimé la façon dont les femmes étaient traitées dans James Bond. D'autant, explique-t-elle, que les femmes ont toujours joué un rôle majeur dans les services secrets. Elles ont fait preuve d'un courage exceptionnel. Elles préfèrent donc qu'on raconte des histoires vraies de femmes extraordinaires. Et ça pose une bonne question quand même, Fabienne. Imagine-t-on un James Bond boy ?
Eh bien, écoutez, Christelle, merci beaucoup. Je vous laisse sur cette réflexion profonde. Vous pourrez revenir dans 2 heures. Vous partez en passant par le Mali, va pas falloir tarder, avec Tchèk Tidiane Sek. Dans le million, l'appelle Black Booba, figurez-vous. Sabalis, c'est le titre, et c'était dans son 3e album solo. C'est sur Inter et dans Un jour dans le monde.
Sabali, atanga sabali, o sabali.
Tidiane Sek, Sabali sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h50, c'est Claude Guibal.
How dare you? The world has
changed. Fabienne Saint-Esse.
Le 18-20. Claude, on regarde vers la Birmanie ce soir après le séisme qui a tué vendredi plus de 2000 personnes dans le pays.
Oui, un séisme qui a plongé la Birmanie encore plus profondément dans le chaos, ce chaos dans lequel elle avait sombré depuis l'arrivée de la junte. Souvenez-vous, c'était il y a 4 ans, à la veille de l'investiture du gouvernement élu
de la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, le général Min Aung Hlaing, prétextant des fraudes, prenait le pouvoir. C'était le début d'une nouvelle guerre civile. On se souvient de la répression terrible, implacable, l'armée qui tire sur les manifestants, la chape de plomb qui tombe sur le pays avec cet accès quasi impossible pour les médias étrangers.
Une guerre qui se déroule dans l'ombre, Claude, depuis 4 ans.
Oui, avec face à cette junte, une opposition hétéroclite. Alors, on y trouve pêle-mêle les forces pro-démocratiques, les partisans d'Aung San Suu Kyi, au passage condamnés, elle, à 27 ans de prison, mais aussi des groupes ethniques armés, notamment dans les zones frontalières, et les milices populaires locales, des gens de tous âges, qui rejoignent cette lutte armée. Alors, ça fait un assemblage qui, en se coordonnant, a mis ainsi, depuis plus d'un an, le régime en difficulté. Cette rébellion contrôle aujourd'hui, en effet, près de la moitié du pays, et depuis peu, notamment, des zones de ressources énergétiques et minières.
Mais la junte garde encore l'avantage.
Oui, l'avantage parce que la junte a finalement la maîtrise du ciel grâce à son aviation, des appareils de ses alliés russes et chinois avec lesquels elle bombarde indistinctement les provinces, rase des villages entiers, tuant de très nombreux civils. Elle garde aussi la main sur les grandes villes, mais elle est très impopulaire, bien sûr, cette junte. Impopulaire de par sa cruauté, mais aussi par sa gestion catastrophique, par la corruption, le détournement de l'aide internationale. En septembre dernier, tenez, après le passage dévastateur du typhon Yagi, la junte, par exemple, a empêché le passage de l'aide humanitaire au prétexte que celle-ci ne devait pas tomber entre les mains des rebelles.
Or, la situation économique est épouvantable.
Absolument. Les voies de transport sont bloquées à peu près partout par les combats. Le système de santé est laminé, l'inflation galopante, il y a des coupures de courant, plus de 10 heures par jour dans les grandes villes comme Rangoon. Le secteur de l'emploi est dévasté, il n'y a plus de main d'œuvre parce que les jeunes partent à l'étranger ou prennent le maquis pour fuir la conscription forcée mise en place par les militaires qui veulent mettre du sang neuf dans les rangs de l'armée, recrute de force 5000 hommes par mois. Avant le séisme, l'ONU estimait à 15 millions de Birmans, grosso modo un tiers de la population, à risque de famine cette année.
Et donc le séisme vient s'ajouter à tout cela.
Et c'est pour ça en fait que ce séisme, eh bien, c'est un test pour la survie du régime qui en appelle à la solidarité internationale. Lors des précédentes catastrophes, les typhons, les cyclones, on en parlait, l'armée avait exigé de garder le contrôle de cette aide. Mais alors qu'ils sont en position délicate, les militaires vont avoir du mal cette fois-ci à imposer leurs conditions à ce moment où ils ont besoin de sortir de leur isolement international. Et l'opposition, elle aussi, est dans un moment de vérité, en quelque sorte, puisqu'elle doit montrer qu'elle, elle est capable de faire mieux que la junte dans les régions qui sont aujourd'hui sous son contrôle.
Claude Guibal, merci beaucoup. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute À quel rythme tourne le monde. Ce soir, la Begin, le compas et le zouk, c'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Et donc, c'est donc en Guadeloupe que nous sommes, Cyril, avec la sortie d'une compilation de musique antillaise qui explore le catalogue d'un célèbre label de Pointe-à-Pitre.
Les disques d'Eps International, c'est le nom de cette institution de la musique créole, à l'origine de plusieurs centaines de références entre les années 60 et 2000. Depuis quelques années, ce label guadeloupéen fait l'objet d'une série de compilations tirées de ses archives, et le volume 3 vient de paraître. L'histoire des disques d'Eps, c'est d'abord celle de son fondateur Henri d'Eps. On le surnomme parfois le Eddie Barclay des Antilles. Ce producteur touche-à-tout, chanteur, saxophoniste d'origine libanaise, est une figure incontournable des musiques créoles. Mais dans les années 60, les premiers pas sont pour le moins modestes. Commerçant à Pointe-à-Pitre, d'Eps installe son premier studio dans l'arrière-boutique de son magasin de prêt-à-porter. C'est là qu'il va enregistrer par dizaines des airs de boléro, de cha-cha, de Begin, comme ici en 1968. « Ça, c'est l'une des perles rares de la toute première compilation Disque d'Eps parue en 2018, suivie d'un volume 2, trois ans plus tard. Fait marquant, c'est un label anglais, Strut Records, qui est allé exhumer ces enregistrements oubliés pour les ressortir aujourd'hui et les faire connaître à un nouveau public.
Et la série se poursuit avec le volume 3, donc Musique Maladie, qui retrace, merci de m'avoir laissé ça, l'arrivée d'un nouveau genre, le zouk.
Et entre-temps, Henri d'Eps a changé de standing. Il a ouvert un club à Pointe-à-Pitre, un magasin d'instruments, ainsi qu'un studio flambant neuf. Nous sommes dans les années 80, avec du matériel dernier cri. La musique s'en ressent, le son n'est plus le même, plus moderne, plus propre, plus synthétique. Ce sont les débuts de ce qu'on appellera le zouk. Le groupe Expérience 7, un des pionniers du zouk, cette musique dansante et mélodieuse qui va bientôt connaître un succès international. Les deux musiciens Guy Houllier et Yves Honoré seront plus tard derrière l'énorme succès de Zouk Machine. Et pour vous montrer à quel point Henri d'Eps est partout dans l'ombre de la scène musicale antillaise, c'est lui aussi qui accompagne les débuts d'un autre groupe qui va beaucoup compter. Je veux bien sûr parler de Kassab. Bien avant de cartonner avec Kassab, le fondateur du groupe Pierre-Édouard Décimus s'est fait connaître aux Antilles à la tête de cet orchestre, on l'entend baptisé les Vikings de la Guadeloupe. Et c'est en quittant Pointe-à-Pitre pour Paris que le leader de Kassab développera son projet. Il connaîtra la consécration commerciale au milieu des années 80 jusqu'à devenir le plus illustre ambassadeur du zouk. Pour les disques d'Eps, il aura d'abord signé cette collaboration avec un chanteur guadeloupéen, Jocelyn Moka, une pépite jusque-là difficilement trouvable. Elle date de 1983, Musique Maladie, c'est le morceau qui donne son titre à cette compilation.
Merci beaucoup, Cyril Sauvageau, ça nous a fait du bien d'écouter cette musique, absolument, vous reviendrez lundi prochain, s'il vous plaît.